les textes, il y a encore beaucoup plus de possibilités pour mettre un journaliste en prison, comme ça a été le cas chez nous ici il y a quelques jours, et quelques mois en février notamment, où six de nos confrères ont été arrêtés, gardés à vue pendant près de 48 heures dans la cellule de la gendarmerie. Donc, c'est un contexte qui n'est pas favorable à la liberté d'expression, qui n'est pas favorable à la liberté de la presse, parce que malheureusement, les pouvoirs publics et les politiques continuent de considérer les journalistes comme des adversaires. Alors qu'il y a un dernier, les gens devaient être considérés comme des partenaires, mais ce n'est pas le cas.
Merci Guillaume. Le Cameroun a été épinglé dans l'affaire Ahmed Abbas, journaliste en langue Hausa de RFI, condamné à 10 ans de prison en rapport avec la lutte contre les islamistes de Boko Haram. Issa Tchiroma, avec ce verdict, le gouvernement camerounais veut-il limiter la couverture de Boko Haram aux seuls communiqués officiels?
Oui, dire que le gouvernement camerounais s'inscrit dans la démarche de la liberté de la presse. Sa restriction ou sa confiscation sont l'exceptionnel que nous ne préconisons pas. Je voudrais que vos auditeurs se disent que le Cameroun est en guerre contre Boko Haram, mais également il y a une difficulté interne où une partie, heureusement une infime minorité, de nos compatriotes qui veulent éclater la nation, qui veulent donc organiser une sécession. Si vous décontextualisez, évidemment, vous dénaturez le problème. Je préside aux destinées de la communication de la presse. Je voudrais d'abord, avant de répondre, de revenir sur le cas d'Ahmed Abbas, dire que je gère ici au Cameroun une trentaine de télévisions absolument libres. Je voudrais que vous vous entreteniez avec les directeurs de publication de ces télévisions pour leur demander si d'aventure j'interfère au niveau de leur ligne éditoriale.
Mais, monsieur le ministre, dans ce contexte apparemment libre, où s'inscrit la condamnation à 10 ans de prison d'Ahmed Abbas?
Je reviens donc là-dessus. Maintenant, s'agissant d'Ahmed Abbas. Ahmed Abbas a été pris aujourd'hui en flagrant délit de possession de documents, en particulier d'un téléphone qui a appartenu à un officiel à Maïdougouri qui malheureusement a été exécuté par Boko Haram. Alors, on a arrêté donc Ahmed Abbas après avoir mené des investigations conformément aux dispositions de la loi parce que en période de guerre, il y a la loi antiterroriste qui gouverne la communication. Parce que comme je disais tout à l'heure à l'entame de mon propos, nous sommes en guerre. Alors, donc c'est cette loi aujourd'hui qui prévaut et quand on a mené des investigations au niveau donc de son disque dur, au niveau de son téléphone, au niveau de cet élément que nous avons retrouvé par devers lui, le tribunal a estimé son implication comme vous dites en anglais, beyond all reasonable doubt.
Alors, monsieur le ministre, Ahmed Abbas clame son innocence, ses confrères camerounais et même du reste de l'Afrique et du monde le défendent. Alors, est-ce à dire que les journalistes camerounais n'ont le droit que de donner la parole aux gens qui tiennent un bon discours, un discours qui plaît en haut lieu, et qui n'ont pas du tout le droit de parler à, par exemple, certains anglophones partisans de la fédération ou même de la sécession?
Non, monsieur, votre lecture est complètement, comment dirais-je, hors contexte. Nos compatriotes anglophones, journalistes, qui ont été arrêtés, ils n'ont pas été arrêtés parce qu'ils exerçaient leur métier. Je mets quiconque au défi de me dire si dans nos prisons, il y a un seul journaliste qui a été arrêté et dont la liberté a été confisquée du fait de l'exercice de son métier. Ceux-là, ils ont été pris en flagrant délit d'incitation à la haine, de brûler, ville morte, ainsi de suite. Et je dis donc pour vos auditeurs qu'ils jouissent aujourd'hui de la présomption d'innocence. Si d'aventure, lors de leur procès, ont présenté des faits qui ne résistaient pas à l'analyse ou à la défense de leurs avocats, il va sans dire qu'ils seront libérés. Le gouvernement n'a aucune raison, mais alors aucune raison, de s'aliéner sa propre presse.
Merci Issa Tchiroma. Guillaume Bateau, dans votre pays, la Côte d'Ivoire, les journaux proches de l'opposition, ceux notamment proches de l'ancien parti au pouvoir, le FPI, connaissent des difficultés aussi. Comment gérez-vous ces situations là-bas en Côte d'Ivoire?
Oui, alors avant de parler des journaux proches de l'ancien parti au pouvoir qui connaît les difficultés, je voudrais dire qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, l'actualité, ce sont les nouveaux projets de loi soumis par le gouvernement à l'Assemblée nationale. Nous, les discussions vont commencer certainement demain ou dans les jours qui viennent. Et ce sont ces projets qui nous inquiètent très sérieusement. Parce que malheureusement, ce qui concerne le projet de loi sur la communication audiovisuelle, comme aussi comme le projet de loi sur le régime de la presse, des dispositions qui font clairement référence à des peines d'emprisonnement sont contenues dans ce projet. Aussi concerne le régime de la presse, l'article 90 de ce projet a dit clairement que les journalistes peuvent être emprisonnés d'une peine d'amende de 1 à 5 ans et d'une peine d'amende de 300 000 à 3 millions. Sous, c'est un délit qui va être connu par avoir des preuves. Si vous prenez aussi le projet de loi sur la communauté audiovisuelle, même quand on réaffirme le principe de la liberté, les restrictions sont telles que le procureur, n'importe quel magistrat, peut trouver une faille pour restreindre l'insigne des médias. Donc, ces deux projets sont pour nous une source d'inquiétude. Alors, s'agissant des médias, des journaux proches, de l'affaire passée au pouvoir, effectivement, régulièrement, ils sont suspendus, régulièrement, ils sont sanctionnés par le Conseil national de la presse, qui s'appuie sur la loi et sur le nombre de dispositions pour pouvoir partir. Nous avons toujours demandé qu'il soit trouvé un équilibre entre la nécessaire régulation des médias et la question de la liberté. Malheureusement, notre point de vue est qu'aujourd'hui, il y a un grave déséquilibre en défaveur des médias et en défaveur de la presse.
Merci.
C'est un souci quotidien et je vous dis qu'aujourd'hui, la situation est encore plus inquiétante.
Merci, Guillaume Bateau. Issa Tchiroma, quelles relations les journalistes doivent avoir avec les autorités dans un contexte comme le vôtre où l'État a comme arme la loi contre le terrorisme?
J'ai la parole.
Oui, allez-y.
J'ai la parole ou c'est que...
Oui, non, c'est vous, bon, c'est vous, bon, oui.
Très bien. Je dirais donc que nous discutons...
Oui, Guillaume, on reviendra à vous dans un instant. Guillaume Bateau, oui, on vous revient dans un instant. La parole au ministre.
Bien, j'étais en train de dire que je suis parfaitement à l'aise. Hein, je suis parfaitement à l'aise. Mais n'oubliez pas une chose. Ne décontextualisez pas. Nous sommes en guerre. Et lorsque nous sommes en guerre, tous les citoyens, quels qu'ils soient, sont mobilisables, compris les journalistes qui ne sont pas au-dessus de la loi. Ils ne sont pas au-dessus de la loi. Pendant que toute la nation se mobilise pour neutraliser, voire éventuellement éradiquer Boko Haram, les journalistes, au nom de leur profession, ont mission, devoir, et j'allais dire pour la circonstance, vocation, à accompagner le gouvernement par leur plume ou par leur parole. Par leur plume, par leur parole, bref, dans l'exercice de leur métier. Il n'y a jamais eu de restrictions. Évidemment, les journalistes disent que, à la faveur donc de la situation de guerre qui est la nôtre, ils se sentent menacés dans leur métier. Je dis non. Aujourd'hui, parcourir notre presse, le gouvernement, moi-même en tant que responsable, le chef des États lui-même, nous sommes tous traînés tous les jours dans la boue, sans pour autant que ça se traduise par une arrestation, moins encore par la confiscation de la liberté des journalistes. Ils sont là et posez-leur la question. En revanche, quand il s'agit d'une situation de guerre ou une situation de menace à l'intégrité territoriale de notre nation, Là, il y a une loi spécifique qui gouverne et qui gère. Si les journalistes veulent aller couvrir l'événement sur un champ d'opération, ils sont embarqués, ils vont voir ce qui se passe et puis ils disent ce qu'ils ont vu. Voilà comment ça se passe au Cameroun, cher Moussine.
Merci, monsieur le ministre. On poursuit cette discussion dans quelques instants après cette courte pause.
Qui parle de vous, mais aussi
de nous. Un nouveau regard sur l'Afrique et les États-Unis.
Tout ce qui nous passionne et dont on rapproche.
Racontez-nous vos histoires
et nous vous raconterons les vôtres.
Vie africaine,
vie américaine.
Vous et nous, c'est ce que nous avons en commun.
Et aussi ce que nous apprenons les uns des autres. La vie,
vous
et nous, ensemble.
De retour dans ce Washington Forum consacré à la Journée internationale de la liberté de la presse, vous avez été nombreux à réagir sur notre page Facebook VOA Afrique et nous avons toujours en direct de Yaoundé le ministre Issa Tchiroma, ministre de la communication du Cameroun. Nous avons Guillaume Bafou de Côte d'Ivoire qui est le secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse de ce pays. Et nous avons Anne-Marie Befoun qui nous rejoint. Elle est blogueuse et fondatrice du média Elle Citoyenne. Elle nous rejoint de Dakar au Sénégal. Alors, où en est la liberté de la presse à travers le monde? Quels défis et quelles limites aux médias sociaux? La crise de confiance envers les médias traditionnels constitue un développement de ces médias sociaux. Anne-Marie Befoun, quelle est la place des médias sociaux aujourd'hui?
Je pense qu'aujourd'hui, les médias sociaux occupent une très grande place dans la diffusion de l'information, étant donné que, comme on peut le constater, les journalistes n'ont plus vraiment la liberté de dire ce qu'ils veulent dire, ce qu'ils doivent dire, et n'ont plus la liberté d'informer à loisir. Donc les citoyens ont pris le relais et s'informent entre eux à travers les réseaux sociaux. Ça a donné naissance à de nombreux livres de blogueurs et de nombreuses plateformes d'information citoyenne.
Alors, on trouve du tout sur la toile de nos jours, y compris de fausses nouvelles, comme on l'a vu avec les élections américaines. Comment les blogueurs peuvent-ils conserver leur crédibilité?
Oula, ça c'est une question de réputation. Tout passe par la crédibilité des informations diffusées, le fait qu'elles puissent être vérifiées, le fait qu'elles soient sûres en fait. Tout passe par le fait de se construire une crédibilité dès le départ. Un blogueur qui diffuse des nouvelles, des blagues, je veux dire des blagues fréquemment sur ses plateformes, ne sera pas pris au sérieux. Donc voilà, c'est un peu ça.
Au nom de la lutte contre les fausses nouvelles, le Cameroun a coupé l'accès à Internet dans deux régions anglophones du pays pendant environ 3 mois. Monsieur le ministre Issa Tchiroma, est-ce que ce n'était pas extrême?
Alors, il faudrait quand même que vous intégriez une chose s'agissant du Cameroun. C'est vrai que pour des raisons de sécurité, de préservation de l'intégrité territoriale de notre nation, le gouvernement s'est trouvé dans l'obligation de réduire le silence Internet pendant deux ou trois mois. Je voudrais que vous sachiez une chose. Et nous disons au Cameroun que la liberté de la presse s'arrête là où commence la menace à la souveraineté nationale ou alors la menace à l'intégrité territoriale de notre nation. Lorsque les sécessionnistes se servent donc de cet outil merveilleux pour jeter opprobre distribué sur notre nation, pour inviter les populations à la désobéissance civique, pour pousser les populations à la haine, à la violence. Combien de gens ont été tués? Nos drapeaux ont été brûlés. Ils ont monté donc des drapeaux sécessionnistes. Suprême profanation. La responsabilité de tout gouvernement, évidemment, c'est de protéger l'ordre public, c'est de protéger l'intégrité territoriale de notre nation, et puis d'arrêter tous ceux qui sont pris en flagrant délit
de commettre ce genre de crime et
puis
devant le tribunal.
Oui, mais monsieur Chiroma, est-ce que ça veut dire que les anglophones qui protestent n'ont pas de grief légitime qui mérite d'être porté par les médias à l'attention de votre gouvernement?
Ils ont parfaitement raison, cher monsieur. Ils protestent dans le respect des lois de la République et d'ailleurs, lorsque les avocats anglophones et les enseignants anglophones ont protesté de ce que la langue qu'ils utilisent n'occupait pas tout l'espace nécessaire, le gouvernement leur a dit, il n'y a pas de problème, venez avec vos revendications, venez avec vos plaintes, mais quand vous venez voir le gouvernement, venez avec la Constitution. Tout ce qu'autorise la Constitution est recevable et discutable. Mais tout ce qui se place hors des lois de la République demeure irrecevable. Et c'est dans ce cadre-là aujourd'hui que tous les problèmes soulevés par les anglophones, et qui sont des problèmes réels, qui sont des problèmes fondés, tous ces problèmes donc font l'objet d'une attention particulière des départements ministériels concernés. Et ensemble autour d'une table, ces problèmes trouveront des solutions.
Merci Issa Chiroma. Trois pays scandinaves restent en tête du classement de RSF 2017 pour la liberté de la presse. Parmi les 20 premiers figurent le Ghana, la Namibie et l'Afrique du Sud. Les États-Unis arrivent au 43e rang, ayant perdu deux places depuis 2015. Ils sont juste derrière le Burkina Faso. La presse américaine n'a jamais été autant critiquée par un président à la Maison-Blanche que ces temps-ci. Écoutons le président Donald Trump dans un récent discours en Pennsylvanie au 5e jour de son mandat. Voilà quelques soucis du côté de la technique.
They are gathered together.
Ils sont réunis pour le dîner des correspondants de la Maison-Blanche sans le président. Et je ne pourrais être plus ravi d'être à plus de 100 000 du marécage de Washington. Et passer ma soirée avec vous tous devant une foule beaucoup plus nombreuse et de meilleure qualité. Hein? C'est vrai? Il n'y a pas d'endroit où je préfère être ici en Pennsylvanie pour célébrer.
Before we talk about my first 100
avant de parler de mes 100 premiers jours, où l'on a beaucoup réalisé, passons en revue les 100 premiers jours des médias. Devrions-nous faire cela? Car, comme vous le savez, ils sont une disgrâce.
Guillaume Bateau, comment réagissez-vous à ces critiques du président américain contre les médias ici aux États-Unis?
Les États-Unis sont un grand pays qui ont une grande histoire, une longue histoire de la démocratie. À titre personnel, je ne suis pas un fanatique du président américain, Donald Trump. Et je pense que le président américain a tort de critiquer les médias parce qu'il sait que pour son pays et pour sa politique, il aura toujours besoin des médias. Je pense que c'est un mauvais signal, parce que cela donne malheureusement à certains de nos dirigeants des exemples qui ne sont pas toujours dans le bon sens. Nous avons besoin aujourd'hui dans le monde de dirigeants qui soient des vrais avocats dans la liberté d'expression. Ça, c'est la force des pays. Aujourd'hui, il faut que les médias aient les moyens de faire le travail. Parce que, contrairement à ce que dit le président américain, si dans son pays, il n'avait pas la possibilité de véhiculer ses idées, de pouvoir communiquer, de pouvoir parler avec ses concitoyens, je ne suis pas sûr que ce serait devenu président des États-Unis. On dit que dans nos pays où chaque bataille, chaque lutte est âpre et difficile, ce genre de critique, ce genre de prise de position, ne peuvent que rendre la situation plus difficile en Afrique. Parce que nos dirigeants, malheureusement, on se voit tendance à appuyer le mauvais exemple.
Voilà, merci Guillaume Bateau. Monsieur Issa Tiroma.
Écoutez, je parle au nom du gouvernement. Je m'interdis de manière formelle et absolue à mettre un jugement de valeur sur ce qui a été dit par le président des États-Unis. Je voudrais rappeler la présence des États-Unis à nos côtés aujourd'hui pour combattre le terrorisme. Il nous apporte un soutien irremplaçable. Mais quand bien même si tel ne saurait être le cas, je ne saurais dire quoi que ce soit au niveau d'une déclaration d'un chef d'État étranger.
Merci, Sati Roma. Anne-Marie Befoun, étant donné que les États-Unis ont de tout temps défendu les libertés fondamentales dans le monde, quel pourrait être l'impact de ces propos du président Trump?
On a dit le métier en Côte d'Ivoire, l'impact c'est la copie. Nos dirigeants prendront cet exemple-là, l'exemple de Donald Trump, concerne n'importe quoi, ce qui est déjà le cas. Je ne pense pas que critiquer les médias de façon négative soit la solution. S'ils ne disent pas ce qu'on veut entendre ou ce qu'on pense être vrai, pour les dirigeants, il serait préférable de collaborer avec eux en toute transparence et de leur montrer ce qu'ils pensent être bien pour qu'ils puissent nous informer. Parce qu'au lieu de les critiquer, nous, les citoyens, au final, c'est nous qui en souffrons. Eux, ils insultent à gauche, les journalistes disent ce qu'ils disent à droite. Finalement, qu'est-ce que nous, on doit faire? Je pense que les deux pouvoirs, les médias et les pouvoirs politiques doivent collaborer à faire tenir les citoyens qui sont en profiter.
Et pour revenir à l'index de la liberté de la presse 2017 de Reporters sans frontières, en 156e et 159e position sur 180, la RDC et le Rwanda demeurent parmi les mauvais élèves entre l'Irak et le Yémen. Guillaume Bateau, quelles sont, à votre avis, les raisons d'un tel résultat?
Oui, mais les raisons sont plus ou moins connues. Malheureusement, pratiquement tous les pays africains se ressemblent. Nos dirigeants n'ont pas encore compris que c'est la liberté libère. C'est-à-dire, la liberté d'expression libère les énergies, que ce soit au plan politique, au plan économique, au plan social, au plan culturel. C'est la liberté qui donne de la force aux énergies dans tous les sens. Il faut tout de même compte pour la lutte contre le chômage. Malheureusement, je l'ai dit un peu au début de l'émission, nos dirigeants africains sont restés enfermés dans la logique du parti unique, dans la logique du parti État, où le gouvernement fait tout à la fois, où le gouvernement ne laisse pas d'espace aux autres acteurs de la société.
Merci Guillaume, monsieur Issa Tiroma, brièvement.
De la RDC ou des autres pays, oui.
Oui, monsieur Issa Tiroma.
Oui.
Oui, brièvement, le gouvernement qui veut tout contrôler.
Est-ce le gouvernement, la répartition des responsabilités, elle est connue. Je voudrais préciser une chose, Alice.
Oui, brièvement, monsieur.
Tout à l'heure, je vous ai parlé. Écoutez, vraiment, j'en ai pour une minute. Je gouverne aujourd'hui 30 télévisions. 3 télévisions qui sont en règle. Aucune des autres télévisions n'est en règle, ne dispose d'une autorisation, encore moins de licence. Et ils opèrent depuis plus de 15 ans en toute liberté. Je dis bien en toute liberté, sans aucun seul document. Vous n'allez quand même pas faire un procès à un gouvernement qui autorise à la presse de s'exprimer quand même celle-là est en marge des lois de la République.
Merci, merci M. Issa Tiroma. C'est la fin de cette émission. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité. Un clin d'œil à toute l'équipe technique ainsi qu'à la RTN TV qui diffuse le Washington Forum à Bamenda au Cameroun.